Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée au monde arabe et à ce qu'il est, une région particulièrement fragmentée qui connaît un très fort degré de violence, des soulèvements de 2011 à l'émergence de Daesh, en passant par la chute de certains parmi les régimes autoritaires et les affrontements confessionnels. Regard sur les jeux des grandes puissances et ceux des acteurs locaux. Les soulèvements de 2011 ont-ils vraiment mis fin à un ordre qui n'était plus tenable? La permanence des problèmes fait dire que le siècle écoulé dans la région est un siècle pour rien. Si les printemps ont été des tentatives politiques qui ont échoué, ont-ils été pour autant inutiles? Pour cette édition réalisée en partenariat avec l'IREMO, nos invités par téléphone depuis Berlin, Charles Thépeau, enseignant, auteur de Le Monde arabe en morceaux, des printemps arabes à Daesh, paru chez Armand Collin. Bonjour.
Bonjour.
En studio à Paris, Jean-Paul Chagnolot, directeur de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier coécrit avec Pierre Blanc, L'invention tragique du Moyen-Orient, paru chez Autrement. Bonjour.
Bonjour.
Et Marc Goutalier, politologue, consultant à l'Observatoire des pays arabes à Paris et auteur de « Quand le printemps brouille les cartes » aux éditions du Félin. Bonjour.
Bonjour.
La première visite à l'étranger du nouveau locataire de la Maison Blanche, l'Arabie Saoudite et Israël, là où le président Obama s'était rendu, lui, en Égypte et en Israël. On est loin du désengagement annoncé des États-Unis. Charles Thépeau, quelle lecture faites-vous de ce choix du président Trump, donc de commencer son périple diplomatique et de voyage à l'étranger par l'Arabie Saoudite?
Ce choix pour ces premières visites dans la région sont en quelque sorte assez cohérents avec la tradition du Parti républicain aux États-Unis. Les administrations précédentes, que ce soit Bush ou même avant, étaient également très proche de ces pays. Donc Donald Trump ne trahit pas cette tradition. Dans le contexte présent, et ces visites ne sont pas non plus anodines, puisqu'il y a un contexte régional et des tensions, et notamment une guerre froide entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui donne une coloration particulière à cette visite, avec un discours de l'administration Trump qui a été particulièrement fort et hostile à l'Iran. Je pense que cette visite traduit finalement le fait que le désengagement américain dans la région est impossible. Sous l'administration Obama, il avait été question d'un pivot vers l'Asie qui sous-entendait moins de présence au Moyen-Orient. Les événements ont montré que ce n'était pas vraiment possible et que, qu'ils le veuillent ou non, les Américains devaient conserver et maintenir un certain nombre d'alliances. En ce qui le concerne, le président Trump a donné jusqu'à présent l'impression de vouloir s'appuyer sur les fondamentaux de la politique étrangère américaine et de renforcer ceux qu'il perçoit comme ses alliés naturels dans la région.
Jean-Paul Chagnolot, cette visite donc de Donald Trump en Arabie Saoudite, c'est aussi une façon de rassurer d'une certaine manière les Saoudiens après l'accord sur le nucléaire iranien qui pouvait faire penser que le curseur américain évoluait.
Oui, certainement, il y a cette dimension-là, mais enfin, je ne peux pas m'empêcher de penser que il faut qu'il apprenne à penser, quoi. Parce que en réalité, c'est quand même un personnage qui, avant son élection, a dit tout et son contraire. Il méprisait le Moyen-Orient, il voulait casser l'accord sur le nucléaire de juillet 2015 avec les Iraniens, alors que c'est pas simplement un accord entre l'Iran et les États-Unis. Il voulait faire de Jérusalem la capitale d'Israël, etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui, pendant sa campagne électorale et pendant aussi les premiers moments de son élection, a dit tout et son contraire. Et puis, il s'est mis à réfléchir. On a dû l'aider, sans doute. Là, il commence à avoir quelques points de repère. Et c'est vrai qu'on revient, comme ça vient d'être dit, à quelques fondamentaux, quoi. Il s'aperçoit sans doute, d'ailleurs il l'a dit lui-même, il a eu cette franchise de dire j'apprends la complexité. Et donc, il y a quelque temps, il s'est retrouvé avec les chefs d'État arabes et les chefs d'État de certains pays musulmans dans une perspective qui va être complètement nouvelle pour lui. Et je pense qu'il va sûrement entendre une lecture de la région différente, à la fois par rapport à l'Iran, par rapport à Israël et la Palestine, et aussi globalement, comme ça a été dit aussi très justement, dans la relation des États-Unis avec avec le Moyen-Orient. Je pense que les États-Unis se sont vraiment déjà désengagés, mais c'est vrai qu'il y a des minima. Et d'ailleurs, on l'a bien vu par ce coup un peu improvisé il y a quelques semaines, qui a fait que Trump a bombardé la Syrie. Donc, alors on a beaucoup parlé de ce bombardement. C'était à mon avis un one shot. Il y avait pas là, c'est un bon exemple. Il n'y a pas de stratégie globale, quoi. Donc, je pense que c'est, moi, je serais tenté de dire qu'il est dans une espèce de phase. C'est une interprétation, évidemment, d'apprentissage, quoi. Et c'est un peu logique, après tout. Il l'a répété. Il connaissait rien de tout cela, et c'est vrai que c'est une très grande complexité. Et le plus simple pour lui, parce qu'il a quand même une administration très solide, qui est très expérimentée, avec d'excellents experts. Donc il s'agit de reprendre les sentiers des fondamentaux dont on verra après s'il en fait une stratégie.
Marc Boutallier.
Comme le dit Jean-Paul Chagnolot, je pense qu'il y a de très fortes attentes envers Donald Trump. Après deux mandats du président Obama qui ont particulièrement déçu dans la région, et tout particulièrement les Saoudiens, bien évidemment. Ce n'est pas anodin si les Saoudiens accueillent aujourd'hui le président des États-Unis, Donald Trump. Ils ont un peu joué des pieds et des mains pour pouvoir obtenir ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, surjoue une certaine entente retrouvée. Je suis pas encore certain que cette entente soit retrouvée, même si on observe effectivement un retour aux fondamentaux. Jean-Paul Chagnolot l'a également souligné. On ne sait pas encore bien, même si il y a des ébauches de politique qui ont commencé à apparaître, quelle sera la politique au Moyen-Orient du président Trump. On sait qu'il ne sait pas grand-chose de la région. Son administration a en partie des dirigeants républicains qui ont eu l'habitude, depuis Reagan, de manier notamment les pays du Golfe, bien sûr, mais il a aussi des gens qui sont peu au fait de la région. Et il a notamment Jared Kushner, son gendre, qui est d'une certaine manière son émissaire spécial pour le Moyen-Orient. Or, c'est quelqu'un qui est sûrement très brillant, qui est jeune, qui aujourd'hui est courtisé par tous les pays de la région, mais qui a des liens très étroit avec Israël, et puis qui s'exprime peu. On ne sait pas lui-même finalement ce qu'il pense, ce qu'il veut. Donc il va y avoir un grand besoin dans les semaines à venir du côté américain d'éclaircir la politique que l'on veut suivre. Or, on le sait, à Washington, il y a d'autres priorités pour le moment. C'est des priorités qui concernent directement le président et son administration. Donc, de ce point de vue, il y a, je le redis, des choses à éclaircir, mais juste un petit rappel par rapport à Obama. Il y avait une petite comparaison qui avait une forme de boutade entre Obama et Donald Trump. Donald Trump a dit tout et son contraire, mais une chose qui transparaissait dans sa campagne, c'était le désengagement, ou en tout cas l'isolationnisme. Voilà, le côté isolationnisme de son discours, du côté isolationniste de son discours, qui faisait référence d'une certaine manière aussi à Obama. On disait d'Obama qu'il était un isolationniste de gauche, et finalement que Trump pourrait être un isolationniste de droite. Les fondamentaux qui avaient permis à Obama de jouer l'isolationnisme, ou en tout cas de jouer ce fameux retrait, ce fameux désengagement relatif du Moyen-Orient, sont toujours là. Je pense en particulier au boom des gaz de schiste qui a permis aux États-Unis de moins dépendre de la manne pétrolière du Moyen-Orient. Donc voilà, beaucoup de choses à éclaircir dans les jours et les semaines qui viennent.
Et une distance évidemment qui s'est prise. Le monde arabe, pour revenir à lui, puisque c'est un peu l'objet de l'émission aujourd'hui, je le disais en introduction, une région particulièrement fragmentée, et cela se retrouve dans chacun des ouvrages que vous avez tous les trois récemment publiés. Une région particulièrement fragmentée qui connaît un très fort degré de violence. On a bien sûr longuement parler des soulèvements de 2011, l'émergence de Daesh, la chute de certains parmi les régimes autoritaires et les affrontements confessionnels. De quoi parle-t-on précisément, Charles Thépot? Finalement, le chaos actuel, quelle lecture peut-on en faire? Est-ce qu'il s'agit d'un retour en arrière ou bien d'un réajustement de la réalité locale rendue nécessaire par, d'une certaine manière, l'inadaptation de celle-ci au concept occidental de frontière souveraine depuis un siècle? Charles Thépot.
Je pense que ce qui a marqué l'année 2011, c'est l'effondrement définitif d'un certain nombre de systèmes politiques, de régimes, notamment en Égypte, en Tunisie, avec l'achèvement de phases de crise qui étaient antérieures, avec des crises sociales, économiques, politiques, qui avaient paralysé un certain nombre de pays de la région, et ce système a éclaté en 2011, par exemple en Syrie, avec le couvercle de la cocotte minute qui a sauté à ce moment-là. Et donc je pense qu'à partir de cette année-là, on rentre dans une nouvelle phase, et c'est une nouvelle phase qui est violente parce qu'elle fait exploser tout ce qui avait été réprimé par le passé, que ce soit en termes d'attente de la jeunesse et de colère face à l'arbitraire et à la corruption d'un certain nombre de gouvernements. Et la phase actuelle est assez déconcertante et confuse parce que justement, les soulèvements de 2011 ne portaient aucune alternative ou aucune solution évidente, notamment parce que les régimes politiques antérieurs avaient éteint toutes les forces politiques qui pouvaient porter ces alternatives. Donc nous sommes dans une phase d'ajustement qui est très violente parce que les prédateurs politiques profitent de cette situation, s'engouffrent dans les brèches pour pousser leur propre agenda. Par ailleurs, je pense qu'un élément qui est particulièrement marquant pour analyser l'ensemble de la région, c'est celui du discours. Pendant des années, la région a été marquée par un certain nombre de discours politiques, par exemple panarabes, qui portaient un projet politique. Les porte-paroles de ces projets se sont peu à peu décrédibilisés et ont dû faire face à l'échec de leurs projets, que ce soit le projet panarabe, par exemple en Égypte avec Nasser, ou même un certain nombre de projets islamistes qui, en dépit de capacités de mobilisation qui restent fortes, ont aussi échoué puisqu'ils n'ont pas réussi à formuler une alternative politique. Et donc depuis 2011, nous observons une situation de vide avec des agendas très particuliers et qui sont des agendas d'obstruction, où chacun conserve son pouvoir. Un certain nombre de pays, que ce soit l'Iran, l'Arabie Saoudite, ou de régimes comme le régime syrien, essayent de bloquer autant que possible toute forme d'évolution. Et c'est cette obstruction qui génère une violence qui est extrêmement forte, avec une grande incertitude sur les acteurs politiques qui seront capables de tirer leur épingle du jeu, et surtout des acteurs politiques qui seront capables de formuler, entre guillemets, un nouveau système. Vous évoquiez la question des frontières. Sur ce sujet-là, il y a effectivement beaucoup de débats sur la validité des frontières issues de la colonisation, sur le niveau politique qui correspond le mieux à la région. C'est un débat très complexe, mais le fait est qu'aucun acteur politique sérieux et influent ne porte de solution très articulée sur ce sujet-là, parce que l'urgence pour tous, c'est la survie.
Jean-Paul Chagnelot, vous partagez ce que vient de dire Charles Thépot, en particulier sur la stratégie d'obstruction.
Oui, je crois qu'il y a en fait, c'est une réponse, enfin c'est difficile d'aborder tout ça parce qu'il y a beaucoup de sujets, mais moi je dirais qu'il y a un vrai triptyque presque structurant ce chaos. Structurer le chaos, c'est une formule un peu étrange, mais d'abord il y a l'idée des régimes, et je pense qu'on peut pas généraliser. Il y a des régimes autoritaires, comme par exemple en Égypte, mais il y a aussi des régimes totalitaire. Et pour moi, le régime totalitaire, c'est l'exemple de ce qu'était Saddam Hussein autrefois, et clairement Hafez al-Assad et puis Bachar el-Assad, c'est-à-dire des régimes qui feront tout pour s'imposer à leur peuple avec une intrusion systématique dans leur vie privée et avec une terreur systématique. Donc on est vraiment... Donc quand il y a une révolte populaire, comme ça a été le cas en 2011, dans un cadre qui est un régime totalitaire, ça ne peut être une réponse de violence. Et c'est pas a posteriori qu'on dit ça. J'aurais bien dit, bien a priori. Donc il y a la question des régimes. La seconde question, qu'on voit au Liban, qui n'a rien à voir avec un régime ni autoritaire ni totalitaire, eh bien c'est la question des communautés, de la coexistence des communautés. Et là on revient à l'histoire longue, et c'est pas réglé la coexistence entre les uns et les autres. Et vous avez un point qui me paraît très important en histoire. Il y a un très beau livre de Marc Ferraud par exemple sur ce sujet, le ressentiment en histoire. Et il y a des communautés qui depuis des décennies ont été marginalisées, plus ou moins, quelquefois beaucoup marginalisés. Je pense aux Kurdes, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, que ce soit les chrétiens, que ce soit les palestiniens. Donc ce ressentiment, c'est un facteur de violence absolument considérable. Et puis le troisième point dans cette structuration du chaos dont je parlais, en formulant cette idée, c'est évidemment les ingérences. Et les ingérences, elles sont constantes, elles sont toujours dévastatrices. Soit qu'elles viennent de la région elle-même, comme c'est le cas aujourd'hui avec les pays qui ne cessent d'intervenir dans l'affaire des autres, et puis évidemment les ingérences internationales, les États-Unis en Irak en 2003 et maintenant la Russie depuis 2015 en Syrie. Donc c'est ce triptyque de la complexité des régimes qui s'imposent à leur peuple avec des coefficients d'autoritarisme différents, cette idée de communauté qui n'arrive toujours pas à trouver les moyens de leur autonomie politique et donc du choix de leur destin, et enfin la question des ingérences toujours dévastatrices, ce triptyque, on peut l'analyser et s'en servir pour pratiquement toutes les périodes, et en particulier pour celles que nous vivons.
Et des ingérences, Marc Gouttelier, qui évidemment ne sont pas nouvelles, parce que finalement, dans l'opposition après l'effondrement de l'Empire ottoman, tous ces pays créés se sont appuyés sur les alliés pour précisément se renforcer dans ce jeu d'opposition qui se redessinait de manière différente.
Et précisément, depuis 2011, si on devait vraiment généraliser, une remise en cause du modèle de l'État-nation tel qu'il a été implanté dans la région après la chute de l'Empire ottoman ou au cours des dernières décennies de l'Empire ottoman. Et même si, effectivement, tous les États de la région sont différents, on peut disserter des degrés d'autoritarisme ou non de certains dirigeants. C'est sûr que Kadhafi ou Assad avaient sans doute plus en commun qu'avec Moubarak. Mais ce qui était en jeu, c'était aussi la manière avec laquelle les différents dirigeants arabes, au fil des décennies après les indépendances, ont hybridé à la fois leur héritage impérial, hérité des structures ottomanes, hérité aussi de la pensée des colonisateurs. Comment ils ont hybridé cet héritage-là avec le cadre de l'État-nation. Ils ont conservé de la vision impériale la vision communautaire. Voilà, l'Empire avait l'habitude de gérer ses territoires et ses populations en termes de communauté, mais cette diversité de la région était intégrée au sein de l'Empire. Les frontières étaient mouvantes, le pouvoir n'était pas centralisé, mais cette diversité était intégrée comme une richesse. Le cadre de l'État-nation, c'est l'inverse. Vous érigez normalement des barrières, mais vous intégrez des barrières aux frontières, symboliquement, mais vous intégrez la population qui est inscrite dans l'espace national, sans discrimination, en théorie, au sein d'un projet politique. Et Charles Thépot en parlait juste avant. Or, là, du cadre de l'État-nation, on a conservé l'idée de barrière, mais on a érigé des barrières en interne. Donc, En regardant les communautés, les pouvoirs se sont en partie murés en développant leurs propres intérêts et en excluant de larges franges de la population qui se sont aussi révoltées en 2011. Et certaines de ces franges de la population sont inscrites dans l'espace, d'où aussi cette remise en cause des frontières, cette remise en cause des États sur la carte.
Alors, ce qui sera intéressant, et peut-être je vous pose pas la question parce qu'il nous reste une minute avant de terminer cette première partie d'émission, mais la question qui se pose, si on va plus loin sur cette notion de frontière, c'est finalement vers quelle géographie nouvelle de la région on s'achemine. On peut juste, pour ne prendre que l'exemple syrien, rappeler qu'il y a aujourd'hui un tiers des Syriens qui sont aujourd'hui déplacés ou réfugiés. Évidemment, évidemment un retour à la situation hantée, et je parle sous votre contrôle aux uns et aux autres, on développera dans la deuxième partie de l'émission, un retour à la situation hantée semble difficile à imaginer. Vers quel type de frontières va-t-on? Est-ce qu'il faut redélimiter, et en fonction de quoi? En fonction des blocs d'influence sunnites et chiites, ou bien des frontières qui vont démarquer des espaces réduits visant à défendre des identités communautaires? Je vous propose qu'on redéveloppe tout cela dans la deuxième partie de l'émission géopolitique. Nous retrouvons nos invités Marc Gouttelier, Charles Thépeau et Jean-Paul Chagnolo dans quelques...
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur le monde arabe, nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Berlin, Charles Thépeau, enseignant, auteur de Le monde arabe en morceaux, des printemps arabes à Daesh, paru chez Armand Collin, Jean-Paul Le Chagnolo, directeur de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier coécrit avec Pierre Blanc, L'invention tragique du Moyen-Orient, paru chez Autrement, et Marc Gouttelier, politologue, consultant à l'Observatoire des pays arabes à Paris et auteur de Quand le printemps brouille les cartes aux éditions du Félin. Jean-Paul Chagnolo, vous souhaitiez revenir sur la notion d'État-nation dans le monde arabe.
Oui, je crois que c'est important parce que quand on utilise le terme État-nation, implicitement, on pense à l'histoire européenne. Et en fait, on oublie qu'il y a au moins deux formes d'État-nation radicalement différentes, même en Europe, évidemment, qui est soit un État-nation ouvert, et pour faire très court et très bref, ça nous renvoie au droit du sol quand on réfléchit au processus de nationalité, d'acquisition de nationalité, ou bien c'est au contraire une État-nation ethniquement refermée sur lui-même, où la logique juridique d'un processus de nationalité, c'est le droit du sang, pour faire très très bref. Or, au Moyen-Orient, la règle partout, c'est l'État-nation au sens ethnique du terme. Ça veut dire, on récuse les autres et on récuse l'autre de manière générale. Prenons trois exemples très rapides. Ce qui se passe en ce moment en Turquie, on n'est pas dans le monde arabe, mais évidemment c'est la même région, on voit bien le sentiment aujourd'hui d'Erdogan qui récuse toute identité aux Kurdes. On est vraiment dans cette démarche d'État-nation turc, comme l'a été Kemal Atatürk, et si on vient, enfin, on a une continuité comme ça. En Israël, aujourd'hui, dernière nouvelle d'Israël, la Knesset veut voter une loi pour faire que la langue arabe ne soit plus une langue officielle. On revient à un État juif, hébreu, fermé sur lui-même. Si on prend l'Irak, ça a été longtemps d'abord un État gouverné par des sunnites. Ensuite, il y a eu, depuis 2003-2004, c'était plutôt une prédominance chiite, et dont les perdants, dans les deux cas, c'était les Kurdes. Donc on est à chaque fois dans ces replis. Donc une des grandes questions, c'est est-ce qu'un jour on va voir des dirigeants qui vont concevoir un État-nation qui soit englobant? Et pour l'instant, on prend le chemin radicalement inverse. Et historiquement, c'est quand même un chemin radicalement inverse avec les pires situations qu'on a pu connaître, parce que aller au bout des logiques de cette conception de l'État-nation, qui est d'abord une idéologie, c'est évidemment l'épuration ethnique, le massacre, le génocide des Arméniens, c'était ça. Donc on est vraiment dans une démarche aujourd'hui qui est très ancrée dans cette région, liée à l'Empire Ottoman sans doute. On n'en sort pas de l'Empire Ottoman avec tous ces malheurs que connaissent ces populations. Et si on devait avoir l'intérêt de revenir au 19e siècle, on verrait que ces éléments étaient déjà présents dans le cadre, comme vous le disiez tout à l'heure, de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire où en principe il y avait du pluralisme, mais ce pluralisme était un pluralisme bien souvent très crispé. Par exemple, les Arméniens, dès la fin du 19e siècle, ont subi des massacres considérables avant qu'il y ait génocide à partir d'avril 1915. Donc il faut bien comprendre que la notion d'État-nation en lui-même, ça ne veut rien dire, sauf à le désigner ou le préciser comme étant fermé ou ouvert, ou relativement ouvert. C'est un enjeu absolument majeur, et au Moyen-Orient, l'État-nation est totalement fermé sur lui-même. On pourrait même dire refermé sur lui-même, avec tout ce que ça implique comme exclusion de l'autre, avec toutes les formes d'exclusion, y compris les plus violentes.
Si je peux me permettre rapidement, sur le cas de la Turquie, c'est particulièrement éclairant, parce qu'on dit que le président Erdogan est nostalgique de l'Empire Ottoman. Aujourd'hui, la Turquie n'a rien à voir avec l'Empire Ottoman, vous l'avez précisé. On nie la différence avec les Kurdes. On a une population qui est sunnite très largement, de manière écrasante. Ça n'a rien à voir avec la démographie de l'époque de l'Empire Ottoman. Il est vrai, comme vous le précisez, qu'à la fin du 19e siècle, on avait un Empire Ottoman qui était en cours de réforme et qui absorbait une partie de l'héritage politique occidental, et que ça en partie aussi générer des tensions politiques internes, mais on a cette dichotomie dans le discours officiel turc entre l'héritage impérial et évidemment le modèle de pensée que vous décriviez exclusif sur un État-nation refermé sur lui-même.
Charles Thépot, Jean-Paul Chagnon le disait, on ne sort pas de l'Empire ottoman, ce dont on ne sort pas non plus dans le monde arabe, c'est de la question de l'ingérence des puissances extérieures. Ça fait 100 ans que ça dure et rien ne nous montre aujourd'hui qu'on s'achemine vers quelque chose de différent.
J'aurais tendance au contraire à dire qu'on est dans quelque chose de tout à fait différent actuellement. Il y a évidemment une histoire de la colonisation dans la région qui est essentielle. Cette colonisation, notamment les puissances mandataires au Levant, a généré un certain nombre de réactions en chaîne, a créé des liens culturels, humains, économiques, a aussi créé des réactions de rejet politique qui sont encore très importantes dans la conscience politique arabe. Ces liens perdurent et en plus ils se mélangent avec des dynamiques qui là concernent toutes les régions du monde, à savoir celle de la mondialisation, avec des liens d'interdépendance qui sont effectivement très forts. Ce poids-là, il est incontestable. Cela étant, moi j'ai plutôt l'impression que cette logique d'ingérence s'est un petit peu inversée. Les crises actuelles font que le tempo politique de la région est dictée par des acteurs qui sont essentiellement des acteurs locaux, voire des acteurs régionaux, mais les ingérences ou l'influence des grandes puissances internationales n'est plus du tout de la même nature que par le passé, notamment parce que la dimension guerre froide, la dimension idéologique de ces ingérences a largement diminué, et également parce que l'appétence des pays concernés, les États-Unis en premier lieu, a également diminué pour ce type de campagne. Il y a la fatigue de l'Irak, pour reprendre une expression qui est utilisée à Washington, qui traduit cette idée que les Américains ont un peu joué aux apprentis sorciers et ils sont encore en train d'en payer les conséquences. Et donc cet échiquier fragmenté, cette capacité d'influence qui a diminué avec le temps, fait que la relation d'ingérence, cette interdépendance politique entre des acteurs locaux et des acteurs internationaux, a évolué avec la capacité plus forte de ces acteurs locaux d'influencer les choses. Je vais donner quelques exemples pour éclairer. On mentionnait en début d'émission la première visite de Donald Trump dans la région. Moi, je trouve que c'est un exemple qui illustre très bien la relation qui se met en place. Il y a deux éléments marquants dans cette visite, au-delà de ceux que nous avons déjà évoqués. Il y a le fait que, comme on l'a dit, la politique de l'administration Trump n'est pas claire, la stratégie n'est pas claire, et donc tous les acteurs de la région se disent que de cette opacité, eux peuvent tirer leur épingle du jeu et influencer finalement ce qui sera la stratégie américaine dans la région pour les prochaines années. Donc on est vraiment dans cette inversion de la relation, puisque ce n'est pas la puissance étrangère qui impose un agenda, mais c'est le dialogue avec les acteurs régionaux et locaux qui va déterminer cela. Et on a bien sûr mentionné l'Arabie Saoudite, mais il y a également la relation avec les différents groupes kurdes qui sera aussi déterminante. Ce qui est déterminant pour les acteurs locaux, et c'est là où ils cherchent une rupture avec l'administration Obama, c'est qu'ils cherchent un partenaire américain pragmatique. Et ils évalueront le pragmatisme et la crédibilité de Donald Trump dans sa capacité à dire des choses et à les faire. C'est quelque chose qu'ils ont beaucoup reproché à Obama. Et là, le curseur vis-à-vis de Trump sera mis à cet endroit. Donc, cette ingérence américaine, elle existe, évidemment, mais sa nature a, selon moi, changé. Les acteurs l'ont compris, et ce qui fait que l'échiquier et les tractations qui dominent la région sont très différentes de celles qu'on a pu connaître au siècle précédent.
Jean-Paul Chagnolot, vous partagez ce qui est...
Pas vraiment, parce que on peut pas analyser une séquence historique de 4-5 ans comme si c'était quelque chose qui allait s'installer durablement. En fait, on est dans des répétitions de ce qui a pu se passer. Enfin, d'abord, l'ingérence, il faut bien dire qu'elle est soit locale, régionale. L'Iran, par exemple, la Perse autrefois avait un rôle majeur. Il continue d'avoir un rôle majeur, et c'est de l'ingérence. Demander aux Irakiens ou demander aux Syriens, c'est évidemment... Ou aux Libanais, c'est évidemment... évidemment
mais
de
là,
l'ingérence.
C'est une ingérence donc régionale.
Oui, mais là, c'est quand on parle d'ingérence, il y a évidemment cette dimension régionale et la dimension internationale. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui ont effectivement une posture un peu de repli dont on ne sait pas si elle va continuer avec Trump, encore que ce qu'il a fait en Syrie, comme je l'évoquais tout à l'heure, montre que il a sans doute envie de se réinvestir. J'en sais rien, nous verrons, lui non plus d'ailleurs, pas savoir. Mais la Russie a joué un rôle absolument capital. Tout ce qui vient de se passer en Syrie depuis 2 ans maintenant, ça ne peut pas se comprendre sans l'ingérence de la Russie. Voilà, donc je crois vraiment que malheureusement pour ces pays, les plus faibles subissent toujours ces ingérences locales ou internationales. Et puis, franchement, le problème, c'est que un certain nombre de pays ou d'acteurs recherchent les ingérences. Si vous allez au Liban, ils peuvent pas se parler sans passer par des acteurs internationaux. Moi, j'ai des amis libanais dans différents camps. Il faut que j'en parle à l'ambassadeur de France ou à l'ambassadeur des États-Unis ou à l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite ou l'ambassadeur d'Iran. Donc, on est dans ce mécanisme qui est profondément ancré et je pense pas qu'on va en sortir tout de suite.
Si je peux juste préciser une toute petite chose, ce que je viens de dire n'est pas contradictoire avec l'analyse de Jean-Paul Chagnolot. L'ingérence est là, mais je pense juste que ses moteurs ont évolué. Et si je peux dire juste un mot sur la Russie, il y a actuellement un triangle qui se joue entre la Russie, l'Iran et la Turquie en ce qui concerne le conflit syrien. C'est évidemment des ingérences militaires massives puisque ces trois pays sont devenus des acteurs du conflit et sont sur le terrain. Mais on s'aperçoit, quand on regarde dans le détail, que les arbitrages et les stratégies que ces acteurs-là, Iran, Turquie, Russie, essayent de développer, sont à chaque fois contraints et empêchés par des politiques du fait accompli. Que ça soit la politique du régime syrien, enfin sa stratégie de survie, ou les stratégies des groupes kurdes, ou d'autres acteurs syriens. Et donc ce que je veux simplement dire, c'est que l'ingérence ne disparaît pas, mais que ses moteurs sont différents.
La question des frontières, Marc Boutallier, à moins que vous souhaitiez rajouter quelque chose.
Sur cette ingérence, évidemment, c'est comme le précise Jean-Paul Chagnolot, ces ingérences sont massives. Depuis 2011, on a eu des effondrements partiels, quasi totaux, d'États centraux qui ont généré des vides de pouvoir. La nature ayant horreur du vide, ça a été complété soit par des acteurs infra-étatiques, type, ça peut aller des Kurdes jusqu'à Daesh, soit évidemment par des puissances étrangères. C'est quand même pas un hasard qu'on retrouve l'Iran, la Turquie, la Russie. Enfin, on ne peut manquer de penser au tsar, au shah et au sultan qui déjà il y a des siècles se disputaient dans la région. Et le fait que aujourd'hui en Syrie en 2017 on ait des soldats turcs, iraniens, russes, français, britanniques, américains, je veux dire ce sont tous des acteurs qui ont eu une influence très importante dans la zone depuis des siècles maintenant.
Et en tout cas depuis la question d'Orient, c'est-à-dire la fin du 18e siècle.
La question des frontières, si vous voulez bien, pour ne prendre que l'exemple syrien. Je le disais en fin de première partie d'émission, un tiers des Syriens sont aujourd'hui déplacés ou réfugiés. Ouais. Un retour à la situation hantée semble difficile à imaginer. Quelle nouvelle géographie pour la région, Jean-Paul Chagnolot?
Il faut se méfier de cette question des territoires. La notion de frontière n'est pas simplement une délimitation d'un territoire. C'est d'abord ça, c'est le plus simple, c'est la ligne dans le sable. Mais après, ce qui est fondamental, c'est ce qui se passe à l'intérieur du territoire. La particularité de cette région, en tout cas de la partie centrale du Moyen-Orient, c'est qu'on a construit les États avant de construire les nations. Alors que dans d'autres régions, on a construit les nations, puis ensuite le nationalisme a conduit à ce qu'il y ait un toit politique et donc un État. Donc il faut bien comprendre cette distinction, elle est fondamentale. Donc à partir du moment où il y a des frontières, il faut qu'il y ait une construction nationale. Or elle a eu lieu, cas un cas, au Liban, jusqu'à quel point, je pose la question, en Jordanie, d'une certaine façon, oui, mais jusqu'à quel point, en Irak, j'en suis pas sûr. Enfin bref, vous voyez, c'est cette question-là. Donc la question des frontières, à mon avis, on devrait pouvoir garder ces cadres, mais par contre, essayer vraiment de construire des nations, vraiment avoir une construction nationale citoyenne. Si vous lisez la constitution irakienne de 2005, donc l'actuelle, qui est totalement pour l'instant marginalisée, vous avez cette problématique d'une citoyenneté irakienne avec le respect des différentes ethnies qui s'y trouvent et avec l'idée pour régler ça, non pas de revenir à l'Empire, mais de faire un système fédéral. Nous sommes dans un État fédéral. Ça fonctionne pas. Mais donc, c'est plus vers le fédéralisme que j'irais plutôt que de changer les frontières. À deux exceptions près, la première est évidemment, c'est la question palestinienne. Là, il faut un État palestinien, tout le monde le dit, et d'abord les résolutions des Nations Unies et d'une manière générale le droit international. Donc effectivement, il faut une frontière pour séparer les Israéliens des Palestiniens, ça c'est absolument indispensable, et ça apaiserait beaucoup de choses dans la région, pas simplement la question fondamentale qui est le conflit israélo-palestinien, et peut-être la question du Kurdistan irakien. Sauf que le Kurdistan irakien, je pense qu'il a plus de chances de s'épanouir d'abord dans un fédéralisme véritablement construit, plutôt que dans une sécession qui impliquerait que, sans doute, doute il soit frontalement opposé à la Turquie qui n'en veut pas, et en plus les Kurdes de la région sont assez largement divisés, je parle du Kurdistan irakien. Donc disons que l'idée de changer les frontières, comme vous l'évoquiez par rapport à l'ex-Yougoslavie, me paraît pas une bonne idée. Ce qui me paraît fondamental, c'est créer un État palestinien et ensuite de penser fédéralisme, y compris d'ailleurs en Turquie, ce qui est aujourd'hui totalement impossible et impensable pour le pouvoir central, qui veut au contraire laminer, unifier, lisser au nom des Turcs et empêcher les Kurdes de s'exprimer. Donc voilà, c'est plutôt ça ma façon de voir les choses.
Donc fédéralisme davantage que création de nouvelles frontières ou d'ajout de nouvelles frontières. D'ailleurs, l'exemple soudanais nous montre aussi que rajouter une frontière n'est pas forcément...
Parce que la question n'est pas là, la question est dans la construction nationale et dans l'acceptation citoyenne.
Tout à fait, oui.
Marc Goutalier.
La carte et ses frontières sont... bien souvent des boucs émissaires censés expliquer les crises. On dit, voilà, c'est la faute de la carte, elle a été mal tracée. Les frontières ont toujours le mérite d'exister. Et les principaux responsables, ce sont avant tout les responsables politiques qui s'inscrivent dans ces frontières, qui mènent des discriminations qui, justement, vont à l'encontre de la carte et mettent en danger cette carte. Là où je mettrais un petit bémol par rapport à ce qu'avançait Monsieur Chagnolo, c'est sur le fédéralisme. Le fédéralisme, à mon sens, nécessite une maturité politique parce que l'État fédéral est un État relativement faible, en tout cas décentralisé, mais pour autant régalien, donc il faut le reconnaître, le respecter. Or, on est dans le cadre d'États qui ont pour habitude une centralisation politique extrêmement forte. C'est quelque chose qui mettra du temps à venir. Au Soudan, ça avait été tenté. En Irak, ça a été tenté pendant quelques années. Bon, maintenant, c'est quelque chose qu'il faudrait remettre encore à l'ordre du jour. Une fois que Daesh sera sans doute militairement vaincu, notamment à Mossoul et ailleurs, il faudra forcément parler de l'avenir des sunnites dans la région. L'État fédéral est donc pas forcément une panacée. Et la question des frontières en elles-mêmes, elles ont déjà changé, j'ai envie de dire. De fait, alors on peut, dans l'avenir, dans quelques années, mais ça prendra des décennies, ce sera très long, maintenir le cadre territorial actuel, mais je pense au Kurdistan d'Irak, qui est déjà très largement autonome. Je pense évidemment à la Syrie, vous évoquiez ce départ d'un tiers des Syriens. Beaucoup ne rentreront pas chez eux. On a une homogénéisation du territoire sur ce qu'on appelle la Syrie utile, dans les territoires contrôlés par le régime de Bachar al-Assad. Je profite juste de glisser que le régime de Bachar al-Assad, on en parle avec la légitimité étatique, donc avec le droit de représenter l'État dans des frontières définies. Le régime de Bachar al-Assad n'est-il pas lui-même devenu un acteur infra-étatique? Il est totalement dépendant de ses alliés, il a une politique complètement communautaire, inscrite dans l'espace. Il faut donc repenser tout de même le système, la carte et ses frontières pour la faire évoluer.
Charles Thépeau, en quelques secondes sur ce sujet?
Il y a deux niveaux, à mon sens. Il y a le premier, qui est le niveau assez classique de la carte qui vient d'être évoquée, où, pour pas répéter ce qui vient d'être dit, j'insisterai juste sur le fait que le fédéralisme et la décentralisation sont en soi des idées qui sont utiles et pertinentes, mais si elles consistent à formaliser les obstructions politiques locales qui empêchent l'État central de fonctionner, en fait, on ne résout aucun problème. On va juste formaliser une paralysie collective qui existe déjà. Donc le fédéralisme doit aller au-delà et pouvoir dépasser ces sujets-là. Et ensuite, ça le renvoie à deux questions qui ont été évoquées tout à l'heure. C'est celle de la relation de l'État aux citoyens et de l'État aux différentes communautés, pour que les pouvoirs qui soient locaux ou centraux ne soient pas des outils de cooptation et d'exclusion d'une partie des populations, mais que ce soit quelque chose d'inclusif. Le deuxième point qui me paraît fondamental pour qu'on parle bien du 21e siècle et pas des frontières du 20e siècle, c'est de prendre en compte le fait que cette région, que ce soit l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, le Golfe, est d'une manière ou d'une autre intégrée dans la mondialisation et que donc les frontières sont assez variables. Il y a les migrations qui sont en quelque sorte négatives liées à la fuite de conflits et autres, mais il y a aussi beaucoup de migrations qui sont positives, des gens qui vont se former, qui vont faire des affaires, etc. Et donc je pense que dans le débat, il faut garder en tête le rôle que certaines mégalopoles globalisées, comme celle du Golfe par exemple, avec Abu Dhabi ou autres, ces mégalopoles-là joue un rôle qui aussi est important pour la question des frontières parce qu'elles servent d'outils de fluidification des échanges dans la région et finalement peuvent aussi apporter des solutions sur le plan économique et humain pour dépasser justement les tensions politiques très locales liées à ces dessins sur la carte sur lesquels toute la tension se cristallise et qui peuvent dans certains cas générer plus de tensions qu'autre chose.
Jean-Paul Chagnolo, en une seconde, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Juste pour dire qu'il faut distinguer la notion d'État fédéral et le fédéralisme. Le fédéralisme, c'est une formule qui permet à chaque communauté d'avoir son autonomie, quelle que soit par ailleurs la nature de cette autonomie, et de participer à un ensemble global. Et je crois que c'est important de réfléchir à la distinction.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Charles Thépeau, qui était avec nous par téléphone depuis Berlin, qui est enseignant et auteur de Le Monde arabe en morceaux, des Printemps arabes à Daesh, paru chez Armand Collin. Jean-Paul Chagnolot, directeur de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier coécrit avec Pierre Blanc, L'invention tragique du Moyen-Orient, aux éditions Autrement. Et Marc Goutalier, politologue, consultant à l'Observatoire des pays arabes à Paris et auteur de « Quand le printemps brouille les cartes » aux éditions du Félin. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. Également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Julien Magoire.